Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous dresserons ensemble le bilan de la première année de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Son élection, rappelez-vous, avait suscité un immense espoir. Bassirou Diomaye Faye s'était engagé à construire un Sénégal juste et prospère. Il avait promis de renforcer la démocratie, de réformer la justice pour la rendre indépendante, de lutter contre la vie chère, de lutter contre la corruption. Autre promesse également qui avait marqué les esprits, redonner au pays sa souveraineté économique en renégociant les accords de pêche ou encore en révisant les contrats pétroliers et gaziers. Un an après, a-t-il été à la hauteur de vos attentes? On a envie de vous entendre ce matin. Vous êtes au Sénégal, appelez-nous. RFI vous donne la parole. 33 9 693 693 70 et vos commentaires, ils sont nombreux ce matin sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. J'en lirai évidemment quelques-uns. Certains d'entre vous ont pris le temps de nous écrire au moins une quinzaine, une vingtaine de lignes. Vous comprendrez bien que je ne pourrais pas lire vos commentaires en entier. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous pour mieux comprendre l'actualité. Ce sont vos questions. Et d'abord, pour commencer, des questions sur la situation dans le sud du Liban, à la frontière avec Israël. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
En Guinée, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci Juan. Pour la première fois depuis le cessez-le-feu, les tirs de roquettes sont partis depuis le sud du Liban. Le Hezbollah nie être à l'origine des tirs. Juan, dites-nous qui est l'auteur de ces attaques?
Ah, qui est l'auteur de ces attaques? Trois roquettes tirées samedi du Liban vers Israël. Dans la foulée, Israël a répliqué en menant des frappes dans plusieurs villages du sud Liban, faisant au moins 8 morts. Et hier, une autre frappe israélienne visant le sud Liban a tué un cadre du Hezbollah. Bonjour Paul Khalife.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant de RFI à Beyrouth. Ibrahima le disait à l'instant, le Hezbollah est pointé du doigt par une partie de la classe politique libanaise. Le Hezbollah nie être impliqué dans les tirs de roquettes. Sait-on qui donc est à l'origine de ces attaques?
Juan, le président de la République et le Premier ministre ont ordonné à l'armée de mener une enquête approfondie pour tenter d'identifier les auteurs de ces tirs. Le ratissage a permis de retrouver au sud du fleuve Litani des rampes de lancement de fabrication artisanale. Mais jusqu'à présent, rien n'a été dit sur les responsables des tirs. Les supputations des médias libanais vont bon train. Certains journaux évoquent la piste palestinienne en riposte à la reprise de la guerre israélienne contre Gaza. Dans le passé, le Hamas avait revendiqué de nombreux tirs de roquettes à partir du sud du Liban, ce qui laisse supposer que l'organisation dispose de la logistique nécessaire pour mener de telles attaques. Mais il faut souligner que le déploiement de l'armée libanaise et des casques bleus de la FINUL complique les déplacements entre les camps palestiniens du sud du Liban et le reste de la région. D'autres médias soulignent que ce tir de roquettes a servi de prétexte à Israël pour lancer une vaste offensive aérienne et se demande si l'attaque n'a pas été commanditée pour justement justifier ces vagues de raids.
Bon, à vous entendre pour le Khalifa, à cette heure-ci, on ne sait rien sur l'identité des responsables de ces tirs. Ibrahima, vous avez une autre question?
Oui, monsieur Juan. Est-ce que cette situation met un terme à l'accord du cessez-le-feu?
Alors, cessez-le-feu conclu, je le rappelle, le 27 novembre. Et c'est la première fois, Paul Khalife, qu'il est violé du côté libanais.
Oui, et le gouvernement libanais et le Hezbollah ont réaffirmé, après cette escalade, leur engagement à respecter le cessez-le-feu. Et Israël, de son côté, n'a pas dénoncé la trêve, ce qui signifie que le statu quo hanté est préservé. Mais ce cessez-le-feu, il faut le rappeler, reste fragile en raison des violations israéliennes presque quotidiennes, qui seraient au nombre de 1500 selon le président du Parlement libanais, Nabih Berri. Depuis l'arrêt des combats le 27 novembre dernier, une centaine de personnes, en majorité des civils, ont été tuées au Liban dans des raids ou des tirs israéliens.
Et que fait le comité international de surveillance du cessez-le-feu qui est dirigé par les États-Unis pour renforcer la trêve?
Ce comité, Juan, ne semble avoir ni la volonté ni les capacités d'empêcher les violations israéliennes. Sa principale préoccupation est de s'assurer que l'armée libanaise s'emploie à démanteler les infrastructures militaires du Hezbollah au sud du fleuve Litani et à saisir son arsenal. Certains médias libanais dénoncent le fait que ce comité fonctionne uniquement à sens unique et ne fait rien pour empêcher les violations israéliennes dont la plus grave est le maintien de 5 positions militaires sur des collines stratégiques en territoire libanais. Lors de la signature de l'accord de cessez-le-feu, des sources américaines et israéliennes avaient indiqué que les États-Unis avaient fourni à Israël des garanties autorisant l'État hébreu à agir lorsqu'il estimait que la trêve n'était pas respectée par la partie libanaise. Les faits sur le terrain montrent que cette annexe signée à l'insu du Liban existe bel et bien.
Évolution de la situation à suivre, bien évidemment, avec vous, Paul Khalife, correspondant de RFI à Beyrouth. Ibrahima, a-t-on répondu à vos questions ?
Bien évidemment, M. Rouen, et bonne journée à vous et à Paul Khalife depuis Beyrouth.
Ben, merci de vos encouragements. Bonne journée à tous les deux. Il est 9h16 à Paris. Vous avez écouté le journal de RFI. Vous avez lu peut-être certains articles sur le site RFI.fr. Vous souhaitez un complément d'information ? Eh bien, n'hésitez pas. On se fait un plaisir tous les matins de vous répondre en direct. Vous nous appelez au standard 33 9 693 693 70. Sinon, vous nous envoyez vos questions, évidemment, via nos réseaux sociaux. Plusieurs questions maintenant concernant des décisions de Donald Trump. Kojo, bonjour.
Bonjour Johan, bonjour tout le monde.
À Lomé, dans la capitale togolaise, des questions sur la politique migratoire du président américain.
Oui, les États-Unis ont mis fin au statut légal de plus de 500 000 étrangers et leur ordonnent de quitter le pays. Mmh. Et je voudrais savoir pourquoi cette décision ne prend qu'en compte les migrants qui avaient été parrainés par un programme lancé en 2022.
Ah.
Aussi, quel était le principe de ce programme ?
Ils sont au total 532 000. Hein, 532 000 latino-américains à devoir quitter les États-Unis d'ici au 24 avril. Bonjour Jérôme Viala-Godefroy.
Bonjour.
Docteur en sciences, en civilisation américaine, vous êtes spécialiste en rhétorique présidentielle. Sont concernés, je le disais à l'instant, et Kojo le précisait également, sont concernés les migrants arrivés aux États-Unis grâce à un programme lancé par Joe Biden en 2022. Rappelez-nous d'abord le principe de ce programme.
Alors, ça permettait en fait aux étrangers qui sont normalement non admissibles et aux membres de leur famille de demander l'autorisation de vivre aux États-Unis, de voyager aux États-Unis. Donc, c'était effectivement mis en place par l'administration Joe Biden concernant certains pays, donc qu'on a cité, hein, le Venezuela, Haïti, le Nicaragua et Cuba, en raison des difficultés dans ces pays-là et du risque pour ces personnes.
Ouais, à l'époque, Joe Biden avait expliqué que ce programme était une méthode sûre et humaine pour alléger, disait-il, la pression à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Entre-temps, Jérôme Viala-Godefroy, Donald Trump a été réélu à la Maison-Blanche. Il avait promis de mener la plus grande campagne d'expulsion de migrants de l'histoire. Il passe donc à l'action.
Oui, il passe à l'action et pour l'instant, c'est un petit peu en dessous de ce qu'il avait promis parce que ça demande beaucoup de moyens. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à cet changement de statut, il demande à ces personnes d'ici la fin avril, le 24 avril, je crois, de s'auto-déporter, de s'auto-expulser en fait. Donc voilà, parce que le problème, c'était aussi un problème de moyens, à la fois d'avoir les moyens policiers, d'aller chercher éventuellement, et puis de les expulser, et puis de les mettre dans des centres en attendant. Et il faut aussi que les pays les acceptent, donc c'est assez compliqué en réalité.
Pourquoi cibler les migrants qui ont bénéficié de ce programme ?
Alors, il le dit depuis le début, hein, Donald Trump pense que c'était quelque chose qui était qui allait contre l'idée de l'Amérique d'abord, qui ça rentre dans cette idée que on a laissé la frontière ouverte, finalement on a trop facilité l'arrivée d'immigrants. Le problème aussi, c'est que beaucoup de ces immigrés en fait travaillent puisqu'ils ont un statut légal, et oui, dans des grandes compagnies, que ce soit, je sais pas, Amazon, Honda, enfin voilà, dans des alors ça va aussi poser des problèmes de ce côté-là, parce que 500 000 ça commence quand même à être un grand chiffre. Mais pour l'instant, effectivement, il n'a pas tout à fait réussi à faire il avait promis d'expulser à peu près 20 millions de personnes. Vous imaginez, c'est énorme. C'était des chiffres, évidemment, qui seront impossibles à tenir.
Et les migrés arrivés à travers le programme de Joe Biden sont arrivés légalement aux États-Unis. Alors, est-ce que Donald Trump peut comme ça décréter qu'ils doivent désormais quitter le pays, alors qu'ils sont entrés légalement et ils sont en situation légale?
Alors, il peut tout à fait le faire. Il change leur statut. Il avait promis qu'il le ferait et il l'a fait. Il avait parlé de ça, notamment quand il a eu cette fameuse phrase sur les pendant le débat sur les Haïtiens. Il considérait que finalement, c'est aussi une manière d'aller contre Joe Biden, de montrer qu'il est différent et de donner un os à ronger à son électorat qui l'a quand même élu en grande partie sur la
Effectivement, c'était une des principales promesses électorales de Donald Trump. Kodjo, a-t-on répondu à vos questions ?
5 sur 5, tout est clair. Merci pour tout.
Eh bien, c'est normal, on est là pour ça. Bonne journée à Lomé. Jérôme Viala-Godefroy, on vous garde encore quelques instants. On a d'autres questions concernant les États-Unis de Donald Trump. Bonjour, Papson.
Bonjour Anne et bonjour à toute l'équipe de RFI.
Merci de nous écouter en République démocratique du Congo, à Kamina. Quelles sont vos questions?
J'ai appris qu'Elon Musk proposait de payer des électeurs pour influencer l'élection d'un juge conservateur de Wisconsin.
Oui.
Mais là alors, pourquoi le multimilliardaire se soucie des élections dans cet État? Est-ce que cette démarche est-elle réellement légale?
Oui, $100 aux électeurs du Wisconsin qui signeraient une pétition contre, je cite, les juges militants. Jérôme Viala-Godefroy, l'initiative d'Elon Musk est claire, hein, Papson le disait à l'instant, c'est d'influencer l'élection qui se tiendra dans moins de 2 semaines dans cet État. Il s'agit d'élire un juge républicain au sein de la Cour suprême du Wisconsin. Pourquoi cette élection qui est locale intéresse-t-elle autant Elon Musk ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le Wisconsin est un État clé. C'est un État qui passe de républicain à démocrate. Là, les gouverneurs, le gouverneur est démocrate, par exemple, alors que le législatif, la Chambre, les deux chambres sont républicaines. Trump a remporté l'élection avec moins de 1% une marge de moins de 1%, inférieure à 1%. Et c'est aussi une question parce que la Cour suprême décide notamment de la légalité du découpage électoral qui est fait. Ça, d'accord, c'était une question très importante dans le Wisconsin, puisque ça a vraiment eu un impact pour empêcher les démocrates jusqu'à récemment, jusqu'en 2023 en réalité, d'être vraiment représentés de manière juste dans ce découpage électoral qui était un découpage partisan.
Donc Elon Musk et donc, par ricochet, Donald Trump ont tout intérêt à ce que ce juge républicain remporte le scrutin du 1er avril.
Alors, il est d'autant plus intéressé qu'en plus son entreprise, donc Tesla, a récemment intenté une action en justice contre l'État du Wisconsin pour les lois qui concernent les concessionnaires automobiles dans l'État, en fait.
D'accord. Donc il y a des intérêts personnels derrière cette initiative d'Elon Musk. $100 à chaque électeur qui signerait donc cette pétition, et $100 de plus pour chaque personne que ces électeurs inciteraient à faire de même. Est-ce légal, Jérôme Viala-Godefroy, de payer des électeurs aux États-Unis? L'achat de vote est légal ou pas?
Ben, c'était la grande question. On avait eu cette idée de loterie aussi, si on se souvient, pendant la campagne, dans l'État de Pennsylvanie notamment, et un juge avait effectivement considéré que ça faisait partie de la libre expression, de la liberté d'expression des individus en politique. Et donc, là, il se trouve que la pétition ne demande pas aux gens strictement de voter. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'intérêt d'Elon Musk, c'est aussi d'avoir une base de données, puisque les personnes qui signent la pétition doivent donner leur nom, leur adresse, leur téléphone, leur courriel. Donc c'est aussi une manière de récupérer des données pour ensuite éventuellement pouvoir continuer d'avoir des contacts avec ces personnes et peut-être les influencer.
Merci infiniment Jérôme Vialat-Godefroy, docteur en civilisation américaine, spécialiste en rhétorique présidentielle. Je souhaite une belle journée à Papson, hein, qui nous écoute à Kamina, en République démocratique du Congo. Il est 8h25 en temps universel. Adam nous rejoint, il est au Tchad, à N'Djamena. Bonjour.
Bonjour, mes Evan Gomez, et bonjour la radio de l'Europe et du monde.
Et du monde. Merci, Adam. Vous avez des questions sur la guerre au Soudan, où la situation évolue dans la capitale, à Khartoum.
Effectivement. Le week-end dernier, l'armée régulière soudanaise a repris les palais présidentiels et continue de progresser dans Khartoum. Alors, j'ai des questions. Comment expliquer une telle avancée?
Alors, on va déjà, si vous le permettez, Adam, répondre à cette première question avec Marc Lavergne, qui nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste notamment de la Corne de l'Afrique. Marc Lavergne, effectivement, Adam le disait à l'instant, les troupes de l'armée régulière ont repris le palais présidentiel qui était aux mains des paramilitaires des FSR depuis maintenant près de 2 ans. D'autres bâtiments ont également été repris par l'armée. Je pense notamment à la Banque centrale, mais aussi au siège des services de renseignement. Est-ce à dire, Marc Lavergne, que l'armée nationale est en train de prendre l'ascendant dans la capitale?
Oui, je crois que c'est largement engagé. Je pense que tout ça n'est pas une promenade de santé, évidemment, mais l'armée, depuis plusieurs semaines maintenant, a conquis des parties importantes de Khartoum, en particulier à Khartoum Nord, des quartiers industriels, le contrôle donc de certains ponts, de certains axes de communication avec le monde extérieur. Et puis maintenant, elle reprend effectivement des bâtiments publics, mais qui sont dévastés, qui sont vidés de leurs fonctionnaires. C'est-à-dire que le pays est complètement dysfonctionnel. Alors, ce sont des prises symboliques. C'est comme le palais présidentiel, finalement, où il n'y a personne, évidemment, qui travaille. C'est un palais en ruine.
Tout à fait.
Mais c'est un symbole assez fort de restauration de l'État.
On a vu d'ailleurs les images circuler sur les réseaux sociaux des soldats de l'armée régulière se filmant dans ce palais, effectivement, en ruine. Marc Lavergne, reste avec nous. Adam, une dernière question.
Quelles conséquences les événements de ces derniers ont-ils sur les FSR?
Alors, les conséquences de ces derniers jours sur les FSR, c'est un coup dur pour les paramilitaires, Marc Lavergne?
C'est une excellente question, parce que finalement, maintenant, le théâtre des opérations va se déplacer vers le Darfour, vers l'ouest du pays, parce que les SFR qui ont perdu la capitale et qui tiennent encore quand même des quartiers périphériques assez importants, vont se replier sur leur base, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont un peu loin, à 1500 kilomètres de chez eux, et je pense que l'idée pour eux, c'est maintenant de reconstituer une base solide au Darfour pour essayer de négocier une paix avec l'armée, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des ennemis, mais ce sont d'abord des partenaires. C'est les forces de soutien rapide de l'armée qui se sont révoltées contre l'armée.
Mais Marc Lavergne, excusez-moi, vous êtes l'expert, vous dites que les FSR ont perdu le contrôle de la capitale. En même temps, hier, il y a encore eu des bombardements à Khartoum, et ce sont les paramilitaires qui bombardent.
Oui, alors ça dépend si ce n'est pas l'aviation, effectivement. Il y a encore des dispositifs d'armes lourdes qui permettent de taper vers le centre, d'essayer de regagner du terrain. Mais je pense qu'il y a une dynamique qui s'est enclenchée, qui tient au fait qu'il y a des soutiens extérieurs d'un côté qui manquent de l'autre côté. Et puis, il y a la nature même de cette armée qui est professionnelle, qui est enracinée dans les bases autour de la capitale, alors que les rebelles, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des supplétifs, donc sont loin de leur base au Darfour et ils vivent sur la population. comme la capitale est dévastée, il n'y a plus grand-chose à piller et leur situation est assez difficile.
Merci de votre éclairage, Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS. Adam, bonne journée à N'Djamena. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la première partie d'Appel sur l'actualité à la radio et en images, puisque cette première partie est diffusée en direct sur YouTube. D'ailleurs, nous avons Gaï Doucouré qui nous dit bonjour depuis Poissy, en région parisienne. RFI en région parisienne, c'est évidemment sur la FM 89, FM, mais aussi depuis peu en DAB+. Allez-y, profitez-en, si vous avez DAB+, vous verrez la différence. Vous restez à l'écoute de RFI, on va marquer une petite pause 10 minutes, on retrouve l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on revient tout de suite après, dans 10 minutes, pour dresser ensemble le bilan de la première année de Bassirou Diomaye.